BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Nous sommes toujours ici en direct avec mon invité. Mon invité ce soir, c'est Florent Ménégaud. Il est le président de Michelin. Bonjour Florent Ménégaud.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Oui, merci d'être là. Oui, bonjour, bonsoir, on ne sait plus très bien, mais alors, en tous les cas, là, pour l'instant, il fait extrêmement beau et extrêmement chaud. Beaucoup de questions à vous poser sur Michelin, bien sûr, et puis sur les déclarations qui ont fait beaucoup de bruit. Le fameux salaire décent, vous avez lancé ce pavé dans la mare. À un moment, on peut dire que la campagne, en fait, pour les élections législatives, vous a donné un tout petit peu, il y a une espèce de résonance avec la question du pouvoir d'achat et la question de la smicardisation de la société. Parce que vous avez dit, il faut un salaire qui permette, non pas de survivre, mais de vivre. On va revenir là-dessus, on va revenir sur votre actualité business, parce qu'on voit que c'est un peu plus compliqué, la mer est un peu plus agitée, Florent Ménégaud. Mais une question, vous intervenez sur le rôle social de l'entreprise. C'est le thème de votre table ronde ici. Il y a un rôle social de l'entreprise, parce que si on pose la question à beaucoup de chefs d'entreprise qu'on a autour de nous, ils disent non, pas du tout. Vous, vous dites oui ?
Ah oui, bien sûr. En fait, une entreprise, c'est d'abord un collectif humain qui décide de fabriquer des choses, de fabriquer ensemble des produits ou des services. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que dans l'entreprise, ces êtres humains sont volontaires pour fabriquer ça. Donc bien sûr, l'entreprise, c'est une forme de société, c'est une organisation humaine très efficace pour fabriquer, c'est la manière la plus efficace d'ailleurs de fabriquer des biens ou des services. Et donc, c'est une forme de société. Et donc, bien sûr, l'entreprise a un rôle social à jouer.
Oui, mais le capitalisme, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça, le capitalisme, Florent Ménégaud.
Eh bien, en fait, le capitalisme, en tout cas chez Michelin, il réconcilie trois dimensions à la fois. La création de valeur, bien sûr, pour l'entreprise, qui, à travers le profit, la création de valeur monétaire, mais aussi l'impact de l'entreprise sur son environnement, donc la valeur pour l'environnement. Et l'environnement, c'est l'économie de la ressource, mais c'est aussi la vie en société autour de soi. Il ne faut pas oublier que chaque salarié est aussi un citoyen d'une ville, d'un immeuble, d'un pays. Et puis, troisièmement, il faut s'occuper de la valeur créée pour les individus. Les individus à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi tout l'écosystème des fournisseurs, tout l'écosystème alentour et tout l'écosystème des clients.
Oui, en même temps, vous êtes, et surtout Michelin avec le pneu, vous êtes confronté à une concurrence féroce. On y reviendra. Puisque vous dites, nos salariés, ce sont des citoyens. Très peu de grands patrons se sont engagés dans la campagne présidentielle. Est-ce que vous vous êtes engagé ? Est-ce que vous pouvez vous engager ou pas ?
En fait, j'ai mes opinions personnelles. Oui. Mais par contre, dans l'entreprise, Michelin est présente dans 175 pays. Michelin ne peut pas s'organiser pour avoir une opinion politique dans chacun des pays dans lesquels il opère.
Non, mais le président de Michelin peut, ah oui.
Non, mais moi, président de Michelin...
Vous n'êtes pas français.
Moi, je suis français.
Oui, bien oui.
Je suis, mais en fait, Michelin, quand je m'exprime au nom de Michelin, je ne m'exprime pas au nom de Florent Ménégaud. Donc, quand je m'exprime au nom de Michelin, je représente tous les salariés, je représente Michelin partout dans le monde. Et donc, à ce titre-là, Michelin, la seule chose que je puisse dire, c'est aller voter. Le droit de vote, c'est un droit fondamental de chacune des personnes qui a été conquis de haute lutte pendant... Il a fallu des siècles pour qu'on ait le droit de voter. Donc, la première chose, c'est de voter. Mais après, d'ailleurs, nous faisons la promotion de la démocratie partout dans le monde et nous proposons à ce que chacun puisse exprimer sa voix quand il a la chance de pouvoir le faire.
Alors, sur cette question du pouvoir d'achat, la smicardisation, vous comprenez que c'était au cœur de la campagne parce qu'il y a un vrai problème ?
Alors, en fait...
On ne fait pas de politique, hein, on fait plutôt oui, du social ou de l'économie, mais on ne fait pas de politique.
Je comprends. Oui. Michelin, au moment où il y a eu cette résonance dont vous parliez, il s'est trouvé que nous parlions de l'innovation sociale de Michelin au cours du dernier siècle. Donc l'innovation sociale chez Michelin n'a pas eu lieu depuis les derniers mois, mais ça fait des années, des dizaines d'années, voire plus d'un siècle, que Michelin innove socialement. Et à l'intérieur d'un package d'innovation sociale, nous avons illustré ce que nous faisions aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons mis en place, dès le 1er janvier 2024, un salaire dit décent, ce qui était la meilleure traduction de « living wage » au sens des Nations Unies. Le salaire décent pour tous, partout dans le monde. Et ce salaire décent, il est différent de ville à ville, de pays à pays. Il est entre Shanghai, Clermont-Ferrand, Bangkok, Rio de Janeiro... Atlanta.
Ok, mais concrètement, d'abord, est-ce que vous avez, ça y est, est-ce que c'est appliqué ? Parce que ça fait quand même quelques semaines que vous l'avez annoncé. Est-ce que c'est un...
En fait, ce que j'ai annoncé, c'est que c'était en place depuis le 1er janvier 2024.
Déjà, c'est-à-dire qu'il y a tous les salariés en place, y compris le...
C'est, tout est en place et audité par une ONG qui est par définition indépendante, qui s'appelle Fair Wage, et qui a certifié que tous les salariés de Michelin étaient au moins à ce salaire minimum.
Oui, parce qu'il y a le salaire minimum, et puis à côté de ce que vous avez mis en place, enfin, vous allez me dire si c'est déjà mis en place, le socle de protection universelle.
Alors, le socle de protection universelle, c'est ce qui permet d'assurer, si le salaire disparaît à la famille, que les enfants puissent continuer leur éducation pendant au moins 2 ans, assurer une rente de situation pour le conjoint survivant pendant au moins 2 ans. Et oui, il sera totalement en place partout dans le monde à partir du 1er janvier 2025, donc dans très peu de temps. Et aujourd'hui, il est déployé à 80-85%.
Vous voyez bien qu'il y a certains qui disent « Mais attendez, il y a quand même il y a une ligne en bas, là, à droite. » Combien ça vous a coûté déjà, la mise en place de cette politique sociale ?
Eh bien, en fait, il n'y a pas eu de budget, et je ne sais pas.
Ça peut poser un petit problème, non?
Pas du tout, parce qu'en fait,
vos actionnaires, je sais bien que vous avez une société en commandite, vous êtes gérant, oui. Mais quand même, non?
Aucun de nos objectifs financiers n'a été changé parce que nous avions pris cette décision-là. Et en fait, la performance de l'entreprise ne peut pas être assise sur une forme de misère sociale. C'est pas possible. En fait, donc, j'ai dit à tout le monde, hein, et ça, c'est pas de l'angélisme, hein, c'est de dire, écoutez, si on n'est pas capable de payer correctement nos salariés, eh bien, il vaut mieux qu'on soit pas dans le business.
Oui, mais donc, vous avez écouté comme moi, il y a de nombreux chefs d'entreprise qui disent, notamment par rapport aux différents programmes, hausse du SMIC, SMIC à tel niveau, etc. On fait attention à ce qu'on dit parce qu'on va rentrer bientôt en période de réserve. Mais vous dites, c'est faux, c'est possible d'augmenter les salaires.
En fait, chaque entreprise, moi je peux parler de Michelin, chez Michelin c'est parfaitement possible et c'est parfaitement compatible. À partir du moment où les personnes maintenant chez Michelin, dans les plus bas niveaux de rémunération, peuvent se projeter parce qu'ils ont un salaire minimum qui leur permet de se projeter dans le monde, eh bien sûr, nous le faisons.
Oui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être dupliqué dans d'autres entreprises ou bien, qui doit être dupliqué?
Nous encourageons les entreprises qui le peuvent. Les premiers niveaux de rémunération, parce que Michelin ne paye pas tous ses salariés à ce niveau-là. Hein. Ouais. J'ai entendu de ce point de vue-là des raccourcis un peu rapides, un peu faciles, en disant que tous les salariés seraient payés à ce niveau-là. Pas du tout. Il y a une échelle de salaire chez Michelin, et donc les plus bas niveaux de rémunération doivent être à un niveau minimum.
Est-ce qu'il n'y a pas, et c'est la dernière question là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la smicardisation, enfin la même conséquence que la smicardisation de la société? C'est-à-dire que si vous augmentez le SMIC, en fait, du coup, il y a de plus en plus de gens qui sont payés au SMIC, et ceux qui étaient payés un peu plus, ils se retrouvent au SMIC.
Écoutez, nous sommes sortis de cette logique de SMIC, puisque nous payons.
Oui, mais le salaire d'essence, c'est un peu la même chose.
Non, nous, c'est le niveau d'entrée des salaires.
Oui.
Mais après, derrière, vous avez tout un système de développement humain et de progression. Donc, on incite beaucoup les gens à être formés. Michelin dépense 2 fois plus que la plupart des entreprises du CAC 40 en formation.
D'accord.
Et nous privilégions la progression sociale au sein de l'entreprise. Donc, bien sûr, les gens, quand ils rentrent chez Michelin, ils vont se développer pendant des
décennies. Le salaire décent à Clermont, à Paris, c'est quoi ?
Donc, à Clermont-Ferrand, c'est 120% du SMIC. Donc, c'est 1,2 fois okay. Le SMIC. Et à Paris, c'est 2 fois le SMIC.
Ouais, d'accord.
Mais à Shanghai, c'est 3 fois le salaire minimum. Aux États-Unis, c'est 2,5 fois le salaire minimum local.
Mais en même temps, c'est compliqué parce que même aux États-Unis, vous dites aux États-Unis, mais le coût de la vie n'est pas la même chose entre New York et voilà, et c'est ça, et au Texas.
C'est une moyenne, en fait, entre Greenville, il y a une valeur, à Atlanta, il y a une valeur, etc.
On parle beaucoup ici, c'est un autre thème, c'est le décrochage entre les États-Unis et l'Europe. C'est un sujet, je sais, sur lequel vous réfléchissez beaucoup. Est-ce que vous l'observez, ce décrochage? Parce qu'il y a un peu tous les avis, là. Ici, les économistes, ils ne sont pas d'accord. Il y a des batailles d'économistes. Il y a un décrochage ou il n'y a pas de décrochage, vous, l'industriel?
Alors, en fait, vous avez différentes réalités. Aux États-Unis, vous avez des systèmes d'assistance à l'investissement très élevés, avec ce qu'on appelle le programme IRA.
Le IRA, oui.
Et puis, en Europe, vous avez un déficit de compétitivité sur le coût de l'énergie. L'accès à l'énergie verte est sur le coût de l'énergie. L'énergie, même si elle a baissé, elle est encore 2 à 3 fois plus chère en Europe qu'aux États-Unis ou en Asie.
Ouais.
Et puis, la deuxième chose, c'est que l'inflation salariale de ce point de vue-là, l'Europe est aussi peu compétitive que les États-Unis en termes de salaires globaux. Mais la question en Europe, et notamment en France, c'est pas le salaire net le sujet. Pardon, c'est pas le salaire brut le sujet, mais c'est le salaire net.
Oui.
C'est-à-dire que derrière, on empile toute une série de taxes et de structures de coûts après le salaire brut.
Donc le résultat est quoi? Pardon, mais le résultat est quoi? La réponse à ma question, c'est oui, il y a un décrochage
oui,
ou non, il n'y a pas de décrochage.
Quand vous regardez un coût de production chez Michelin en Europe par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'Asie, eh bien derrière, l'Europe est restée à peu près au niveau des États-Unis, légèrement au-dessus des États-Unis maintenant, alors qu'elle était en dessous des États-Unis avant la crise de l'inflation. Et puis surtout, elle a décroché très fortement par rapport à l'Asie. Oui. On est maintenant deux fois plus cher que l'Asie.
Oui, deux fois plus cher. Et ça, c'est là, on va tout droit dans le problème de Michelin. C'est vos principaux concurrents sont évidemment chinois. Et pour vous, comment vous faites pour gagner encore de l'argent avec un pneu? C'est pour ça que vous avez lancé vous avez dit que je crois que c'est à la fin de la décennie, plus de 20% du chiffre d'affaires de Michelin serait fait ailleurs que dans le pneu. Donc, vous êtes en train de modifier vos stratégies parce que justement. Les Chinois sont en train de vous tailler des parts de marché, de vous prendre des parts de marché terribles.
Pas exactement. C'est-à-dire que, en fait, nos concurrents asiatiques interviennent sur le bas du marché et Michelin a la chance d'être positionné sur le haut du marché.
Voilà, mais il faut vraiment rester dans le haut.
Michelin innove en permanence et c'est un excellent stimulant. La concurrence est un excellent stimulant pour l'innovation. Et donc, nous, on aime la concurrence. Ce qui nous gêne, c'est quand la concurrence se fait avec des règles de jeu qui sont inéquitables.
Par exemple,
donc là, on travaille sur l'Europe pour dire non, mais il faut que les règles du jeu soient les mêmes, à peu près les mêmes, entre l'Asie et l'Europe. L'Europe ne peut pas être simplement une plateforme, un marché très ouvert dans lequel tout le monde peut rentrer en ne respectant pas les mêmes règles du jeu. Donc quand les règles du jeu fiscales, sociales, environnementales ne sont pas les mêmes, ça ne marche pas. Et donc d'ailleurs, c'est ce que nous disons.
Ça veut dire que vous demandez quoi? Vous demandez une augmentation des droits de douane? Qu'est-ce que vous demandez?
Non, ce qu'on dit, c'est par exemple, on va prendre nos produits sont des produits qui s'usent au fur et à mesure de leurs usages. Et leur performance est liée à la manière dont ils s'usent dans le temps. Et bien nous avons demandé à ce qu'on régule les règles du jeu en matière de niveau minimum de performance attendu quand le pneu est usé, par exemple.
D'accord, ok. Parce que justement, il y a quelque chose aussi qui vous perturbe, parce que je disais que les temps sont un peu plus agités. Vous avez sorti des résultats 2023 qui étaient très bons. Là, c'est un peu plus agité, mais notamment la chute de la vente de voitures électriques pour vous, c'est une très mauvaise nouvelle, non? Parce qu'en plus, les voitures électriques, j'ai appris ça, les voitures électriques, elles consomment beaucoup plus de pneus qu'une voiture thermique.
Alors, chez Michelin, nous n'avons pas fait de commentaires sur notre performance financière. J'ai fait des commentaires sur l'environnement. Notre environnement est très agité, mais Michelin a appris à être très résilient. Et donc, nous savons naviguer maintenant dans des univers un peu plus chaotiques. Et donc, aujourd'hui, Michelin est très sain et fonctionne très bien. Alors maintenant, par rapport à votre question sur les véhicules électriques, oui, un véhicule électrique consomme naturellement beaucoup plus les pneus parce qu'il les sollicite beaucoup plus. Il les sollicite parce qu'il demande des pneus qui soient basse consommation d'énergie. Ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas, c'est qu'un plein sur cinq dans un véhicule thermique, c'est uniquement les pneus qui le consomment. Et 20% de l'énergie d'un véhicule, c'est le pneu. Et donc, il y a des technologies pour que des pneus dissipent plus ou moins bien l'énergie. Et Michelin sait très bien le faire. Un véhicule électrique est beaucoup plus lourd.
Oui.
Et il sollicite beaucoup plus les pneus. Et la répartition des masses est différente. Et il y a beaucoup plus de couples pour recharger le véhicule.
Mais, donc si les ventes chutent, c'est mauvais pour vous, quoi?
Non, parce qu'en fait, c'est une opportunité. Parce que tous nos pneus sont compatibles véhicules électriques. Mmh. Donc, c'était une opportunité supplémentaire pour nous qui se réalisera plus loin dans le temps.
Et donc sur 2024, la mer n'est pas agitée, vous pensez que vous serez dans la même épure?
La mer est agitée, mais le bateau est très solide.
Oui,
et donc le bateau Michelin va bien dans une mer qui est très agitée.
Et donc ça veut dire que 2024 sera comme 2023?
2024 n'est pas encore terminé, donc on a exprimé nos ambitions.
Pour ça, j'utilise le futur, hein, ça s'appelle le futur. Hein.
Donc écoutez, moi j'ai une grande confiance dans ce que nous réalisons en ce moment.
L'innovation, c'est clé, en fait. Ça a toujours été clé pour Michelin, justement, face à la concurrence, face aux Chinois, face aux Américains, face aux Japonais. C'est historique. Là, est-ce que vous nous aviez montré, du reste, il y a quelques temps, tous les nouveautés, tout ce que vous faites en termes d'innovation? Parce que cette innovation, Elle vous sert ensuite pour votre activité principale, pour les pneus. Est-ce qu'en fait, vous n'avez pas été un peu trop vite en besogne, un peu trop ambitieux, lorsque vous disiez qu'il faut que plus de 20% de notre chiffre d'affaires soit réalisé en dehors du pneu?
Alors aujourd'hui, nous avons déjà 16% de notre chiffre d'affaires qui n'est pas strictement dans la fabrication et la vente des pneumatiques. 16%. Donc 20% à l'horizon 2030, c'est pas un chemin assez considérable. Et vous avez raison de dire qu'il y a trois choses qui sont essentielles chez Michelin et qui ne changent pas. Tout le reste peut évoluer et changer. La première chose, c'est l'attention aux personnes. La deuxième chose, c'est l'esprit pionnier, l'idée de se poser toujours la question de comment on pourrait faire les choses différemment. Et le troisième, c'est de croire en la science et la technologie. Et c'est pour ça que Michelin innove en permanence.
Florent Ménégo, est-ce que vous diriez que la réindustrialisation de la France, elle s'est bien déroulée, elle est en route, et que ben ça, c'est peut-être à mettre au bilan du précédent gouvernement, où vous pensez que pas tout reste à faire, mais enfin, en tous les cas, il y a beaucoup reste à faire.
Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus positivement de l'industrie, et donc on a compris l'intérêt d'une industrie pour une économie.
Mmh. Et alors ?
Je me réjouis de cela et je constate que...
Non, mais est-ce qu'il y a eu de la réindustrialisation ou pas ?
Il y a beaucoup de choses qui se sont beaucoup améliorées en France, oui, au niveau industriel.
Mais on en est au début du processus, on en est... Ah bah allez-y, il faut vous le dire. Si vous trouvez que ce n'est pas le cas, bah dites-le.
Non, c'est pas que j'essaie de réfléchir à votre question, parce que je me la suis pas posée dans ces termes-là. Michelin est une activité qui est complètement mondialisée.
Mais là, je restais un instant sur la France. On a vu que vous avez dû fermer des usines, développé
Michelin
d'autres.
Par exemple, notre fabrication de piles à hydrogène, nous avons ouvert la plus grosse usine dans le monde aujourd'hui qui fabrique ces piles. C'est à Lyon, nous l'avons fait. Par contre, c'est vrai qu'en même temps, Michelin est amené en permanence à revoir son empreinte industrielle et nous, malheureusement, quelquefois, nous sommes amenés à fermer des sites industriels. Donc, en permanence, Michelin... en France d'ailleurs et partout dans le reste du monde, nous ouvrons et nous fermons des activités industrielles en permanence, mais globalement
donc
le net est positif.
Pas plus en France qu'ailleurs.
Pas plus en France qu'ailleurs.
Et peut-être moins aujourd'hui qu'avant.
Mais aujourd'hui, la situation, encore une fois, l'environnement pour l'investissement, notamment pour l'innovation, pour la recherche, est beaucoup plus favorable en France.
Est-ce que la formation, vous l'avez dit du reste en préambule, Florent Ménégo, est-ce que la formation est quelque chose de très important pour vous ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous trouvez des compétences suffisantes et nécessaires ?
Alors, sur la formation, j'ai deux messages. Le premier, c'est qu'il faut impérativement remettre du contenu scientifique dans l'éducation dès le plus jeune âge.
Ouais.
C'est-à-dire que la science, elle est partout. En fait, c'est un regard sur le monde et il ne faut pas qu'on dégoûte
C'est une ouverture sur le monde aussi.
C'est une ouverture sur le monde. Il faut aider les enfants à aimer la science et pas les décourager d'apprendre les sciences. Et la deuxième chose, c'est que la formation, notamment à travers l'apprentissage, a progressé très nettement depuis la dernière décennie en France. Je m'en réjouis parce qu'en fait, nous sommes sur des métiers très complexes et l'apprentissage est une très bonne façon d'engager les individus, de rapprocher toute la sphère de l'éducation avec la sphère de l'entreprise. Et je pense que séparer le monde de l'éducation du monde de l'entreprise, ça c'est une erreur grave.
Tout à l'heure, je recevais la patronne de Catherine Mangin, la patronne de McKinsey en France, parce que publie demain, lors de ses rencontres économiques à Aix-en-Provence, un rapport qui est sur la mondialisation et comment elle se réinvente, la réorganisation de la mondialisation. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les critères géopolitiques, en fait, conduisent un peu la stratégie internationale des entreprises. Je m'explique, c'est-à-dire que en fait, les États-Unis travaillent moins avec la Chine, qui soit un peu devenue son ennemi, mais plus avec le Mexique, beaucoup plus qu'avant. Que la Chine, elle travaille beaucoup plus qu'avant avec l'Asie du Sud-Est, plus qu'avec nous ou plus qu'avec d'autres régions du monde. Donc, en fait, on travaille entre amis. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi vous percevez chez Michelin, c'est-à-dire que vous faites attention aujourd'hui de travailler avec dans des pays ou avec des entreprises qui sont friendly.
Alors, il est indéniable que la géopolitique est devenue une priorité stratégique importante. Avant, elle était intégrée dans la stratégie, mais elle n'était pas en haut de la pile. Aujourd'hui, elle est devenue en haut de la pile. Nous avons été amenés à sortir de nos activités en Russie, pas à cause de Michelin, mais parce que les circonstances extérieures ont fait que nous sortions. Oui, mais en fait, ce mouvement-là, il a des conséquences mondiales. C'est-à-dire que derrière, dans nos chaînes d'approvisionnement, il a fallu tout reconsidérer à cause de ce mouvement-là. Et donc, aujourd'hui, effectivement, vous avez une réorganisation des supply chains qui doit s'opérer. Et ce qu'on voit surtout, c'est pour des questions aussi d'environnement, on ne fait plus traverser 20 ou 30 fois le monde pour fabriquer un produit fini. Ouais. On essaye de rationaliser un peu plus par zone géographique, ce qui est beaucoup de bon sens. Et pas uniquement de « je travaille entre amis ». Et Michelin, nous travaillons dans 175 pays dans le monde. Et donc, dans chacun de ces pays, nous sommes locales.
Oui, d'accord, c'est peut-être ça la solution. Vous faites le lien avec la question suivante à propos de supply chain. Est-ce que vous avez, l'approvisionnement de votre supply chain aujourd'hui est revenu à la normale?
C'est beaucoup mieux. Mais,
oui, d'accord, mais c'est beaucoup mieux. À quel niveau
était dans le chaos et aujourd'hui, on gère des incidents réguliers. Mais par exemple,
vous êtes à quel, à 80, 90, 110, 50?
Alors, en fait, on est revenu à 90% de la normale. D'accord. À peu près. Donc, on n'a plus de problèmes de pénurie énormes tels qu'on a pu les connaître il y a 2 ou 3 ans. Et nos flux sont mieux réorganisés. Les coûts de transport se sont bien améliorés. Par contre, typiquement, récemment, vous avez 5% de nos flux qui allaient de l'Asie vers l'Europe et qui passaient par le canal de Suez. Tout d'un coup, il a fallu renvoyer tous ces bateaux pour qu'ils fassent le tour de l'Afrique, pour revenir sur l'Europe. Et ça a doublé les temps de transport. Et en fait, des incidents.
Et augmenter les prix.
Écoutez, là, on n'a pas eu le temps de le faire parce que ça s'est passé très récemment.
Oui, d'accord. Et donc, à partir de là, maintenant, c'est quoi votre stratégie?
Notre stratégie, nous avons appris à réorganiser nos supply chains très régulièrement. Donc, nos chaînes d'approvisionnement sont révisées en permanence en fonction des circonstances. Et donc, il y a des circonstances qui n'étaient pas prévues précédemment, comme des attaques sur les bateaux ou des choses comme ça, et que nous sommes obligés de prendre en compte. Mmh. Mais nous n'avons plus les problèmes de crise aiguë liés aux pénuries, soit de conducteurs de camions, soit de manque de containers, soit de manque de camions, soit ce type de sujet-là.
Et en conclusion, Florent Ménégo, pour vous, les temps ne vont pas forcément être agités, mais est-ce que vous pensez que quand même pour la France, ça va être une période très chahutée, donc ça aura un impact sur votre business ou pas?
La France, ça représente 8% de nos activités, de notre chiffre d'affaires. Écoutez, attendons de voir le résultat des élections et pour l'instant, le futur, il se détermine chaque jour. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Michelin est très résilient et donc, quelles que soient les
circonstances, on a vu d'autres.
Nous saurons naviguer.
Merci beaucoup et pas de coup de pompe pour Michelin en tous les cas.
Merci
d'avoir été avec nous. Florent Ménégo, le patron de Michelin, était donc notre invité.